Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 830 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Je rappelle que nous sommes la seule émission de radio au monde en langue française à 100% dédiée à l'univers des vins et des spiritueux. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez Sud Radio à Marseille sur 95.1 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. Avec le Sud-Ouest, on en parlera avec la OP Côte de Duras. Morgane Fleury sera parmi nous. C'est la quatrième génération du champagne Fleury. Un coup de cœur aussi pour un vin rosé, mais il sera en Bourgogne. Et puis le Vino Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Hélène Thio, David Cobol et Philippe Orbach. Bonjour à tous les trois.
Bonjour, bonjour.
Alors justement, on parle du Vino Quiz. C'est à vous, Philippe Orbach.
Oui, je vous rappelle le principe, vous le connaissez, mais chaque semaine, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. 2 points cette année, aujourd'hui en tout cas, un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France. C'est pas beau ça ?
Joli cadeau.
La semaine dernière, la question était, rappelez-vous, quel est l'actuel président du directeur de la maison Louis Latour ? Réponse A, Louis-Fabrice Latour. Réponse B, Philippe Forbach. Hein ?
Philippe Forbach,
c'est sympa.
C'est original.
Réponse C, Zinedine Zidane.
Voilà. Très bien.
Eh bien, la bonne réponse était,
hein,
c'était très compliqué. Oui, la réponse A, Louis-Fabrice Latour, Forbach, Zidane. Voilà.
Ouais, en tout cas, c'était. Donc Zidane n'a pas encore acheté la maison de Latour. Quoi.
Pas encore.
Bon, mais bon. Et qui se concentre sur le Real.
Exactement.
Alors cette semaine.
Voici la question de ce week-end. Que possède la famille Lorgeril ? Réponse A, une chaîne de brasserie dans le 8e arrondissement de Paris. Réponse B, de très beaux domaines viticoles situés dans le sud de la France. Ou réponse C, des campings autour de Perpignan, dans ce beau pays catalan. Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France, rendez-vous tout de suite et pendant toute la semaine, comme vous voulez, sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
Merci Philippe. Invino sur Radio. Justement, on retrouve Hélène Pio, journaliste au magazine Régal, avec, ça y est, on l'accueille, hein, Myrène de Lorgeril est parmi nous. Bonjour Myrène.
Bonjour. Bonjour, alors on vous accueille effectivement Myrène aujourd'hui en tant que présidente du conseil interprofessionnel des AOC du Languedoc et de l'IGP Sud de France, en tant que présidente de toute l'énorme infrastructure Lorgeril, Pénotier, donc 5 sites touristiques en Languedoc-Roussillon, une maison de négoce, 6 domaines viticoles familiaux sur 9 AOC dans Languedoc-Roussillon, et puis en tant que championne. Mais oui, vous venez de gagner le premier prix 2019 des trophées de l'œnotourisme. Vous avez remporté ce trophée parmi 350 candidats.
Là là, bravo, bravo, bravo,
merci,
bravo.
Merci,
on est très
merci.
Fiers.
Et alors, racontez-nous pourquoi vous, parmi les 350, vous avez gagné
la plus sympa.
Catégorie
de loin la plus sympa. Quoi.
Oui, bien sûr. En catégorie architecture et paysage. C'est voilà. Si beau que ça chez vous ?
Eh bien, écoutez, on espère. Et c'est vrai que compte tenu de la beauté de tout un tas de domaines viticoles en France, on était extrêmement heureux de ce trophée parce que c'est vrai que architecture et paysage, on avait de beaux challengers. Mais je pense qu'on a la chance d'être à la fois dans une très très belle région, donc d'être un peu innovant avec le château de Pénotier qui est un des plus beaux et plus grands domaines viticoles qui s'est tourné vers l'énotourisme depuis déjà 15 ans, donc nous sommes assez pionniers en la matière. Puis on a la chance que nos ancêtres aient construit une très très belle maison, donc on n'avait plus qu'à. On n'avait plus qu'à la restaurer, la faire vivre et l'animer et le faire savoir. Donc c'est vrai que petit à petit, c'est une activité qui s'est beaucoup développée et qui pour nous est parfaitement complémentaire de.
Combien de personnes viennent chaque année, Myrène, vous rendre visite dans ce beau domaine ?
45 000 visiteurs.
C'est énorme, 45 000.
Mais oui, et ça s'est fait petit à petit, sans que quasiment on s'en aperçoive parce que ça s'est développé.
Ah bah ça se voit quand même, 45 000 personnes. Hein.
Mais oui, mais ça se fait très naturellement.
Vient avec ses 45 000 copains,
ça
on le voit.
Très dans mon salon, ça rentre pas, je vous le dis.
Non, mais ça se fait très naturellement parce que ça se fait autour du vin. Les gens viennent visiter, déguster, prendre un repas, séjourner. Faire un séminaire, assister à un événement, et bien finalement, tout mis bout à bout, c'est de multiples occasions de faire découvrir le vin aux gens. Ils viennent soit pour l'architecture du château, qui est monument historique, soit pour le jardin, qui est jardin remarquable, soit pour les chais, pour visiter, déguster, soit pour les ateliers pédagogiques.
Le vin, quand même, aussi un petit peu, non ?
Oui, mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a presque à peu près 30% de gens qui viennent uniquement pour le vin. Et qui s'ouvrent sur autre chose. Et puis il y a tous les gens qui viennent pour autre chose et qui découvrent le vin.
Oui,
donc le fait de faire un lien,
sens,
voilà, le fait
c'est
de
ça.
Faire un lien, d'avoir plusieurs synergies, c'est très très important. Et c'est une des choses qui fait que voilà, le no-tourisme, c'est pas avoir un caveau juste ouvert, c'est avoir toute une activité et faire des synergies qui vont faire qu'un groupe de gens qui va venir visiter va trouver intéressant de passer un moment et puis va pouvoir le partager avec la famille, les enfants, les amis. Et chacun va y trouver son compte. Donc le tout,
alors,
c'est que les gens passent un bon moment.
C'est effectivement important. Donc les gens viennent pour ce petit Versailles du Languedoc puisque c'était le surnom du château depuis du château de Pénautier depuis déjà 200 ans. Et alors c'est important ce que vous avez dit, les amis et la famille. Les enfants, ils sont pas toujours super bien accueillis. Et ben il faut savoir que chez vous, ils peuvent venir. Tant qu'ils veulent. Oui, déjà, il y a 30 hectares de jardin pour s'éclater, pour jouer au foot. Ça laisse un peu de place.
Ça laisse un peu de place.
Même jouer au rugby.
On a essayé depuis toujours de prévoir vraiment des activités pour les enfants. Donc il y a des activités autour de la nature, il y a des promenades dans le vignoble, il y a des jeux pédagogiques. Il y a un petit coin juste pour jouer, pour pouvoir être tranquille pendant que les parents dégustent. Et ça, c'est un truc tout simple, mais c'est une chose à laquelle il suffit de penser et de la mettre en œuvre de façon un peu sympa. Et il y a des jeux extérieurs, il y a des jeux intérieurs. Et c'est vrai que les enfants sont très contents et que ça les intéresse ou bien qu'ils s'intéressent à d'autres sujets. On essaye de trouver le moyen de les.
Vous voyez, David Cobot, vous pouvez y aller. Hein. Bon, allez, oui, Hélène.
Il ira en famille.
Ouais. Il ira jouer tout seul. Oui.
Alors effectivement, on peut donc dormir chez vous. Il y a 24 chambres, je crois.
Alors dans le château, on accueille les groupes pour des événements, que ce soit des séminaires d'entreprise. Et ça fonctionne très bien parce qu'ils sont comme préservés, comme chez eux dans le château. Ou bien on a des gîtes. Et dans les gîtes, là, on accueille les individuels qui peuvent venir un par un, deux par deux, une chambre, deux chambres, trois chambres. On peut accueillir jusqu'à 50 personnes dans une ancienne métairie entièrement restaurée, juste à côté du château, à quelques encablures.
Et puis alors, le but de tout ça, c'est bien sûr qu'il y ait des nouvelles personnes et puis aussi des habitués. Alors vos habitués, ils peuvent venir cette année parce qu'ils auront une petite surprise supplémentaire qui est la nouvelle gamme que vous venez de lancer, Assemblage. Alors je précise pour nos auditeurs qui bien sûr n'ont pas l'étiquette sous les yeux, la marque est écrite en minuscules et entre crochets. Alors pourquoi ces crochets? C'est quoi? C'est une fantaisie typographique?
C'est un peu une fantaisie typographique et c'est surtout l'idée de vraiment dire qu'on est dans un espèce d'univers nouveau et c'est vrai que la typographie c'est une recherche un peu pour aiguillonner l'intérêt des amateurs de vin devant une bouteille, essayer de les stimuler un peu sur leur recherche. Et l'idée, c'était vraiment, on passe notre temps à travailler sur nos terroirs, nos assemblages dans la partie recherche d'appellation, recherche d'excellence. Et puis quelquefois, on a des coups de cœur sur des assemblages qu'on fait comme ça pour le plaisir, en s'exonérant des contraintes d'appellation ou de terroir. Et puis souvent, ce sont des coups de cœur formidables et on fait marche arrière dans notre labo ou dans notre salle de dégustation. En disant, bon, mais c'est pas tout à fait ça qu'il fallait qu'on fasse, puisqu'on est en train. Mais quand même, on laisse un peu de notre cœur dans cet assemblage. Et donc, on a décidé de finalement donner un peu de place à cette gamme.
Myrène, un site internet peut-être pour prendre enseignement, pour aller voir cette nouvelle gamme, visualiser également ce magnifique château.
Oui, www.lorgerie.com. LORGERIL.
Merci Hélène, merci Myrène. Une vidéo sur radio retrouve Philippe Forbach, qui est toujours sommelier du monde à vie d'ailleurs, pour une balade dans le sud-ouest. On reste dans le sud, mais c'est un autre sud. Hein.
C'est un autre sud. C'est un sud plus marqué par l'Atlantique que par la Méditerranée.
Il pleut un peu plus.
Intéressant. Le climat est un peu différent, on appelle ça l'arc atlantique.
Ah bah voilà.
Voilà, exactement. Je vous amène du côté d'une petite appellation pas très connue qui s'appelle les Côtes de Duras. Alors c'est où ? C'est situé dans le nord-ouest du département du Lot-et-Garonne, aux confins de la Gironde et de la Dordogne. Pendant très longtemps, cette petite appellation était dans l'ombre du Bordelais, puisque pendant très longtemps, il faut savoir que tous les vins du haut pays bordelais, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas nécessairement en Gironde, étaient vendus sous l'appellation Bordeaux.
Ils s'appelaient haut pays bordelais.
Exactement. Oh là là. Et donc, c'est une époque dorée. Parce
quel
que
sens du marketing, quand même.
Oui, et c'était les négociants du fameux quai des Chartrons qui vendaient les vins, et les gens qui produisaient ne se posaient pas trop de questions pour la commercialisation. Mais quand l'INAO est arrivé et qu'on a décidé qu'il n'y avait de Bordeaux qu'en Gironde, là, ça a été compliqué.
Gironde,
les gens d'ailleurs,
quoi, ouais.
Exactement, tous nos amis de tout autour, ont été obligés de s'émanciper de Bordeaux et de trouver des propres marchés. Et pourtant, c'est un vin historique, connu déjà à l'époque des rois de France. On disait on dit que François Ier était friand, par exemple, des vins de Duras. Donc, il y avait une certaine histoire. Alors, qu'est-ce qu'on y produit ? On y produit des blancs, élaborés à partir de Sauvignon, Sémillon, mais également de Muscadel, d'Ondinque, du Nid blanc, également de Chenin blanc. Donc, il y a une grande diversité de styles. Plutôt des vins secs, aromatiques, donc un peu tendance, c'est assez intéressant. Des rosés, alors ça aussi, on est tendance. Et puis, avec les beaux jours qui commencent à poindre là, de plus en plus souvent, c'est sympathique. Et là, on trouve des cépages plutôt d'expression atlantique bordelaise, c'est-à-dire Cabernet Franc, Cabernet Sion, Merlot, mais également un peu de Côte, hein, qui est le fameux Malbec, en complément de ces cépages très connus. Et les rouges sont élaborés avec la même gamme de cépages, d'ailleurs. Les rosés sont plutôt des rosés, alors pas trop tendance provençale, avec un peu plus de matière peut-être, même si on a, même chez eux, tendance aujourd'hui à aller vers
un peu les choses.
Plus, voilà, exactement, des rosés plus pâles. Mais c'est assez savoureux comme type de rosé. Et les rouges sont intéressants. On peut les boire, sur les millésimes un peu tendres comme 2016, par exemple. On peut déjà commencer à les boire, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans. Mais globalement, ils sont sympas à goûter entre 5 et 10 ans.
D'accord.
Et ce sont des vins quand même très accessibles en prix, parce que un code du Duras, bon, il y a 3 caves coopératives, à peu près 80 ou 90 producteurs indépendants, sur à peu près 1000 hectares d'appellation. Donc ça fait quand même, on a déjà
de la place.
Oui, il y a de la place. Même si tout n'est pas planté, ça fait pas mal de volume quand même. Et on a des vins autour d'une dizaine d'euros.
Oui, donc c'est très raisonnable quand même.
Ce qui est vraiment sympa pour pouvoir.
Vous aimez les vins sud-ouest en général, Hélène ?
Écoutez, oui, moi, de toute façon, c'est toujours une gamme effectivement que je trouve intéressante. Mm-hmm. Et en effet, avec des rapports qualité-prix super intéressants. Mm-hmm. C'est ça qui est chouette.
Alors, Duras, il ne faut pas confondre Duras avec Marguerite. C'est pour le plus littéraire.
Merci, Philippe.
Ça, c'est la vache. C'est la vache, ça, oui.
Mais surtout avec un cépage, parce qu'on utilise le Duras également, puisque c'est un cépage de l'appellation Gaillac. Ça vient de, étymologiquement parlant, ça voudrait dire le piton calcaire.
Le piton calcaire.
Tellement dur qu'il est effectivement dur, Duras.
Rien à voir avec le serpent, quoi, c'est un piton.
Exactement. Et c'est juste un promontoire.
Promontoire.
Et donc, mais ça confère aussi, notamment pour les blancs, une jolie expression du sol. Alors, peut-être pas nécessairement toujours évoquer la minéralité, mais néanmoins, on sait que les poches calcaires permettent d'avoir des vibrations énergétiques et notamment d'apporter une certaine acidité dans le vin, à
D'accord.
travers l'acidité du raisin, et de donner des blancs avec une belle fraîcheur, ce qui est le cas ici pour les blancs de Duras.
Donc potentiel de garde pour les blancs, Philippe, faut y aller quand même pas trop tard, non ?
Oui, disons que franchement, un an ou deux, c'est déjà vraiment sympa pour les boire. Après, on peut les aimer, ou certaines cuvées peuvent aller plus loin, mais franchement, il faut les saisir.
On n'a pas de liquoreux ?
Sur le fruit, alors... Dans cette appellation, on peut faire, toujours dans le sud-ouest, des gens qui s'amusent à faire des vendanges tardives, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est recherché pour l'appellation Duras. Il y a vraiment plutôt des secs qui sont produits.
Alors justement, quelques vignerons, Philippe, vous en avez déjà cité quelques-uns. Mais...
Oui, le domaine Molière, tant qu'on est dans les artistes et les écrivains, mais ça s'écrit avec un H au milieu.
Mmh. Moutte,
le Bihan, le domaine Durand, le château La Boissière, par exemple, sont parmi les domaines les plus intéressants.
Plus intéressants, quoi. Température de service pour le rouge, en tout cas, glacé, 2-3 degrés.
Oui, si on est au pôle Nord.
Mais oui,
si
voilà.
En France,
dans 15 degrés, 14 degrés.
16 degrés, c'est bien pour le servir. Les blancs autour d'une dizaine de degrés, c'est pas la peine de non plus les glacer. Quant au rosé, température de cave, autour de 12 et 14 degrés, c'est parfait.
Merci beaucoup, Philippe Forbach. Merci à tous. Dans un instant, retour au bar à vin du caviste Nicolas à Paris pour parler du champagne fleuri, 4e génération, et du rosé, mais pas n'importe où. Hein. De Bourgogne.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris, pour cette émission en public et délocalisée avec une nouvelle invitée, Morgane Fleury. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Alors vous êtes copropriétaire avec la famille de cette maison de champagne. Champagne Fleury, un mot sur l'historique. Tout débute en 1895.
Exactement, 4e génération. Donc voilà, 4e. Mon grand-père qui a créé la marque en 1929.
C'était Émile.
Ça, c'était mon arrière-grand-père.
Ah, l'arrière-grand-père.
Voilà, mon grand-père, c'est Robert.
D'accord.
Et mon père, Jean-Pierre, qui a instauré ou comme mis en place la biodynamie en 30 ans. Donc, on fête nos 30 ans de biodynamie en 1989.
Alors, dites-vous, vous êtes situé où en Champagne, alors ? Parce que c'est grand, la Champagne.
En plus, on est dans la Champagne encore trop méconnue, qui s'appelle la Côte des Barres, un petit village de la vallée de la Seine.
D'accord.
Voilà, où on a des terroirs argilo-calcaires, quiméridiens, qui s'assimileraient à la coupe de terroirs de Chablis, si vous voyez, plutôt que... La Bourgogne, la Champagne du Nord où c'est de la craie.
Voilà. De la craie. Donc vous avez les cépages classiques de Champagne, on peut trouver sur le domaine.
Une grosse dominante Pinot Noir dans l'Aube, en fait. On retrouve ça par rapport au rachat de raisins qui est fait encore beaucoup par les grandes maisons de la Marne, qui nous sollicite à faire de jolis vins rouges. D'ailleurs, chez nous, on fait un coteau champenois depuis peu, qu'il faut découvrir parce que c'est en toute petite production.
Oui, c'est vrai, c'est très rare ça. Alors, si je vous dis autant porte-vent, ça vous rappelle quoi ?
C'est exact. J'adore cette histoire parce que ça m'arrive d'en parler de temps en temps. Retour aux racines, et c'est les racines qui m'ont ramené au village. Et
parce
une envie
départ,
de défendre les terres.
C'est
ouais,
ça.
C'est ça. Ouais, ouais.
Et alors, vous n'avez pas de regret d'être devenue une femme du vin ? Une femme de théâtre ou de cinéma ?
Mis à part le fait que c'est dangereux parce que beaucoup sollicité de par le monde et à trinquer avec tout le monde, je pense que je fais un métier merveilleux et en plus qui est complètement en résonance avec le consommateur curieux. Défendre nos terroirs et sans chauvinisme. Je crois que la France, on a une diversité de terroirs qu'il faut vraiment mettre
richesse,
en urgence et en valeur et en lumière.
Alors Morgane, vous travaillez en famille avec vos deux frangins là, qui fait quoi ?
On se répartit les tâches avec trois tempéraments différents, des talents différents aussi. Donc ce qui est assez génial, c'est que mon tout jeune frère s'occupe de la vigne, mon autre frère Jean-Sébastien de la partie vinification, et moi je suis plutôt à la partie représentation, donc sur Paris et l'export.
Alors vous, c'est 100% biodynamie, vous en parliez tout à l'heure. Vous êtes quoi, l'inventeur de la biodynamie en tout cas en Champagne?
Alors l'inventeur, ce serait un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas l'idée c'est de comprendre ces sols et d'en sortir le meilleur produit fini en fait.
Et j'aimerais
ne même plus mettre de terme bio, biodynamie, juste de parler de vin authentique, de terroir et unique au monde. C'est ça qui m'intéresse. Les labels, à un moment donné, tout va s'écrouler parce que du bio, du pas bio, c'est pas ça qui compte. C'est être juste, se sentir responsable quand on a des terres et des jolis terroirs en appellation champagne, de produire le meilleur produit au monde.
Comment on peut définir la philosophie, en tout cas le positionnement de cette maison Champagne Fleurie?
Oh ben j'ai envie de dire, tout le monde ne le connaît pas encore, mais dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Non, après on a la chance
c'est
d'avoir
le bon plan de Indino Sud Radio.
On a la chance d'avoir un joli stock en cave, puisque 4 générations et les paysans y gardaient pas mal. Mon grand-père a pas mal stocké, mon père stocke pas mal aussi. Voilà, avec la nouvelle génération, on essaie aussi de créer des nouvelles cuvées qui correspondent encore plus avec l'attente du marché, des champagnes plutôt jeunes. Mais on a la chance d'avoir des trésors de cave.
Qu'est-ce qu'on a dans la gamme, Morgane? Dans la gamme, ça va de quoi à quoi? Ils ont des jolis noms, de votre brut sans année jusqu'aux grandes cuvées?
Oui, bah, tous sont des noms assez charmants. Fleur de l'Europe, c'est la première cuvée que mon père a créée en biodynamie. Donc voilà, 30 ans à l'époque du début de l'Europe, un peu à cœur de l'actualité en ce moment avec le Brexit. Et puis les nouvelles cuvées qu'on a créées avec mes frères, c'est des cuvées plutôt à consonance musicale. Il y en a une qui s'appelle Sonate. C'est une des premières cuvées élaborées sans soufre. Note blanche, c'est un pur pinot blanc que j'ai créé en 100% pinot blanc. Donc. Et puis une cuvée qui s'appelle Boléro, qui est notre identité pinot noir, que mon jeune frère Benoît a baptisé comme ceci. Donc on va prochainement, la semaine prochaine, un accord champagne et musique.
Et la gamme de prix, ça va de combien à combien si on vient?
C'est le meilleur rapport qualité-prix.
Et de loin en plus. Hein.
Non, on est dans une gamme de premier prix à 30 euros. Et puis après, on va jusque, sans aller trop loin, une petite moins de 100 euros pour les top
pour des grandes cuvées exceptionnelles. Quoi. Alors, voilà. Joyeux anniversaire. Vous fêtez les 10 ans de votre cave à Paris, la cave Fleurie.
Exactement. Une petite niche où on est là pour faire la promotion des vins de terroir et vignerons. Bien sûr, de nos champagnes avant tout. C'est un peu le showroom de la maison mère située dans l'Aube, un petit peu oubliée. La Côte des Barres, on connaît encore pas assez, mais on va œuvrer pour développer le tourisme. Et voilà, à éduquer les gens au champagne et aux vins de vignerons, des petites productions. Enfin, toute la tendance des vins nature qu'il y a aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis assez heureuse de faire partie de cette
tendance. Il n'y a que des vins nature, que des vins bio, c'est d'être dans la cave. Il n'y a pas d'élaboration plus conventionnelle.
Ah non, j'y ai pas, il faut montrer pas de blanche si on veut présenter ses vins chez moi, sinon j'aurais fait que champagne. Ouais. En fait, je n'ai pas osé faire que champagne.
Vous avez des vins étrangers aussi ou c'est que du français?
Tout petit peu, pareil, il y a une histoire, soit je connais les vignerons, je suis allée visiter le domaine, soit voilà, il faut qu'il y ait du lien. Moi, pour moi, je dis toujours, ne croyez pas ce qu'on vous raconte, ni même les journalistes.
Non, sauf sur une vidéo radio, n'est-ce pas, Morgane?
Rapprochez-vous du vigneron et bon, de toutes les histoires qu'il pourra vous raconter, c'est les plus belles.
Bon, racontez-nous, donc pour vous retrouver, donc, le site de la maison Champagne Fleurie et le site de votre cave, quels sont-ils?
Alors pour les champagnes, donc on est dans l'Aube, un petit village qui s'appelle Courtauron, et pour la cave, donc l'annexe de la maison mère, c'est au cœur de Paris, à côté des Halles, rue Saint-Denis, au 177
quoi.
Macafleury.
Et le site internet, c'est quoi le site internet?
C'est www.macafleury.fr.
Puis on y arrive quoi.
Voilà.
Merci Morgane Fleurie, Invino Sud Radio. On retrouve David Cobold, cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour un coup de cœur pour un vin rosé. Ça va David? Parce que vous êtes venu au rosé, là, ça fait juste depuis 2004 que l'émission existe, et vous n'avez jamais parlé positivement d'un rosé.
Non, c'est vrai que
Il n'est jamais trop tard.
Je suis jamais trop tard, et puis il ne faut jamais dire non, il faut toujours admettre ses torts, et accepter d'avoir tort, et de réviser ses jugements quand le moment arrive. Et là, le moment m'est tombé dessus. Tac! Un jour, je goûtais une série de rosés, il y en avait un, j'ai dit... Mais celui-là, je pourrais le boire.
Non.
et du coup, on l'a gardé avec mon collègue Sébastien, on l'a gardé au repas, au déjeuner, et à deux, on a fini la bouteille sans le moindre problème.
Alors, avec modération, vous étiez donc 20 pendant ce déjeuner, voilà.
Oui, on était 36 voilà, autour de la table. Oui,
et leur bureau est juste à côté d'un endroit où ils peuvent faire la sieste.
Hein, bien sûr.
Mais mon bureau est dans mon appartement, donc le problème est réglé.
Le bureau dans
je ne voulais pas le dire à l'antenne, mais c'était le cas.
Alors, c'est quoi ce rosé? Il s'appelle Sakura. D'où vient-il? Il vient de la Bourgogne. Et il est fait avec du pinot noir. Et il est fait par une famille que j'apprécie beaucoup, dont j'ai déjà apprécié les autres vins. Je n'avais jamais goûté la rosée auparavant, je crois. Ils s'appellent Chevreau. Ils sont dans les villages de Marange, dans un des trois villages de Marange, qui est l'extrême pointe sud de la côte de Beaune, juste au sud de Santenay. Et ils s'appellent Sakura. Pourquoi ? Parce que Sakura, ils ont un grand marché au Japon. Je crois que l'épouse d'un des frères qui gère le domaine est japonaise. Et du coup, Sakura, c'est le nom qui donnait. Vous savez, ces fleurs, le cerisier sauvage qui jalonnent les rues de Tokyo à cette époque, enfin un peu plus tôt, au mois d'avril, plein de ces fleurs roses. Et cette variété de... J'ai noté le nom, ça s'appelle le Prunus cerulata.
C'est pas mal.
Que les Japonais appellent Sakura. En réalité, le Sakura a une fleur un peu plus blanche avec la partie centrale autour du pistil qui est très rose foncé. Et ce vin rosé était assez foncé, ce qui me plaît beaucoup. Parce que je ne suis pas très attiré par les roses pâles, les rosés pâles. Il a gardé toutes les caractéristiques.
Qu'est-ce que vous avez sur votre t-shirt d'ailleurs comme symbole ? Ah, c'est une rose ?
Ah, ben j'ai une rose, ouais, la rose de l'équipe de rugby de l'Angleterre.
Oui, parce que pour les auditeurs qui viennent de rejoindre l'émission, David est un peu anglais, 7/8 de voilà. Sang anglais.
Et donc, ça, c'est le t-shirt, enfin le maillot de rugby historique, 1892, c'est l'année de ma naissance, évidemment.
Ben évidemment, hein, c'était. Et,
alors, je reviens au.
Très bon millésime.
Oui. Je reviens au rosé, ce rosé de Bourgogne. Je trouve que le Pinot Noir est un cépage particulièrement adapté au rosé parce qu'il garde la fraîcheur, il n'est pas tannique, il a la délicatesse, il a beaucoup de fruits. En tout cas, ce rosé avait beaucoup. Et j'ai noté en le goûtant qu'il avait juste une petite note légèrement fumée, mais très légèrement. Ça m'a intrigué, donc j'ai appelé le vigneron après avoir goûté et pris mes notes. Et en l'interrogeant, j'ai appris qu'il le vinifie dans des barriques. Mais dans les barriques anciennes, pas les barriques neuves. Oui. Et du coup, ça donne cette petite touche fumée qui rajoute une couche de complexité. Oui. C'est très, très plaisant. C'est absolument pas dominant. C'est très fruit rouge. C'est frais, beaucoup d'acidité. Enfin, une belle acidité. Rien de lourd, pas de pamplemousse, pas de banane, pas des trucs écœurants comme on a souvent dans les rosés. Pas de bonbons anglais, pas d'acétone, rien de tout ça. Et un vin digeste, frais, simplement bon. Et figurez-vous, ça coûte 8 euros.
Ah, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. C'est très raisonnable.
C'est très raisonnable pour un vin de qualité, avec un alcool très raisonnable aussi, parce qu'il titre 12 ou 11,5. Donc, c'est un vin vraiment ce que je pense être à peu près mon idéal pour un rosé.
Et ça serait plutôt, David, pour l'apéro ou pour le dîner ? Parce qu'au déjeuner, vous avez utilisé, consommé les deux façons.
Eh bien, on a mangé un poulet rôti avec ça, et avec bonheur, et ça passait très bien. Et puis, on a fini avec des fromages, et ça allait très bien sur les fromages. Voilà. Donc, c'est vraiment très fortement recommandé. D'une manière générale, toutes les rosées que j'ai aimées cette année venaient du nord de la France, donc à partir de Beaujolais, Bourgogne, Savoie, Loire. Voilà. Je trouve que le climat frais
en
est beaucoup
Alsace
plus adapté.
Il y a de très jolies rosées en Alsace.
Exactement.
Également. On n'y pense pas assez souvent.
Il faut un climat plutôt frais pour faire un rosé équilibré.
Et c'est quoi en Alsace d'ailleurs ? C'est plutôt du Pinot Noir, on ne sait pas.
Ouais, c'est du Pinot Noir en Alsace aussi. Ouais.
Et David, donc ça, 8 euros, c'est une bonne affaire. On peut en acheter quelques bouteilles pour l'été.
Pour moi, c'est une très bonne affaire. Je ne sais pas si la production est grande. C'est une affaire familiale. Domaine Chevreau, CHEVROT, vraiment un grand coup de cœur. Et d'ailleurs, j'ai goûté aussi leurs vins blancs qui sont excellents, leurs rouges également. Donc,
en blanc, quelle appellation ? Marange, vous dites ?
Alors, Marange, alors là, c'est Bourgogne rosé, oui. Appellation générique. Ils font des Bourgognes génériques, ils font des Aligotés, ils font des Maranges et ils font un peu de Centenay également.
D'accord. Et vous, un coup de cœur rosé récemment, Hélène, vous avez quoi ?
Bah écoutez, moi, c'est comme David, hein, cette année, c'est plus avec le réchauffement climatique, c'est plus le nord de la Loire qui m'attire.
Plus que le sud, que les régions originelles, j'allais dire.
Ben oui, je sais bien qu'on est sur Sud Radio et que, mais bon, évidemment, c'est traditionnellement, j'ai des gros coups de cœur pour la Provence, mais de plus en plus, c'est intéressant d'aller voir au nord.
Et vous, une adresse, Philippe ?
Les terrasses d'Hortense, fait par Scamandre à Vauvert, dans les Costières de Nîmes. C'est vraiment un rosé que j'ai adoré.
Scamandre, c'est très
vraiment,
bon.
Vraiment.
Avec une vraie couleur rosée ou une rosée
plutôt pâle.
Tendance pâle.
Il y avait beaucoup de caractère quand même, j'ai adoré ce vin.
Merci beaucoup, merci David, Morgane, Hélène et Philippe. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. C'est exceptionnel, il n'y aura pas d'Invino demain, sniff, mais rassurez-vous, on parlera de rugby avec le match Montpellier contre le Stade français. C'est pour la bonne cause. Donc d'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais de respecter la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.